Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui au-delà de la planète Mars à la recherche de l'or de l'espace.
Mais oui, alors que les stocks de minerais et de métaux précieux s'épuisent sur Terre, de nouveaux entrepreneurs nous jurent avoir trouvé la solution. Après avoir vidé notre planète de ses richesses, pourquoi ne pas nous tourner désormais vers les cieux? Il faut dire qu'incapable de penser sa propre limite, l'homme continue de dévorer tout ce qui l'entoure jusqu'à ce qu'insatiable, il découvre de nouveaux butins. Son regard se tourne désormais vers le ciel pour y chercher les lueurs fugace d'une pépite astrale. Car notre univers regorge, semble-t-il, de mines à ciel ouvert, de rochers dérivants composés de platine, de rhodium et d'or. Objets célestes et froids, les astéroïdes de la première ceinture constitueraient donc la nouvelle frontière de l'homme. États et entrepreneurs ont déjà pris date et s'équipent pour explorer, exploiter ces eldorados du lointain.
Pourtant, le traité de l'espace de 1967 interdit toute appropriation des corps célestes par une puissance étatique.
Oui, mais il va sans dire que lorsque l'on parle d'argent ou d'autres métaux rares, les grands traités internationaux ne font pas le figure face aux perspectives d'un profit en puissance. Ainsi, dès 2015, l'administration Obama fait voter le Space Act qui donne le droit aux entreprises privées d'exploiter commercialement les astéroïdes. L'année dernière, le Luxembourg lui emboîte le pas en votant une loi encadrant les activités liées à l'exploitation et l'utilisation des ressources spatiales. Car le droit international interdit l'appropriation des corps célestes, mais pas leur exploitation. Un détail pour certains, une brèche pour d'autres qui s'y sont allègrement engouffrés, flairant la possibilité d'un nouveau filon. D'ailleurs, le Luxembourg, contrairement aux États-Unis, permet aux entreprises étrangères de partir à la conquête de l'espace pour autant qu'elles viennent s'installer dans le Grand Duché. L'homme s'est ainsi se montré inventif pour attirer entrepreneurs et capitaux.
D'autant que plusieurs entreprises ont déjà exprimé ouvertement leurs ambitions spatiales en la matière.
Oui, on compte déjà 3 entreprises sérieusement engagées dans cette guerre des étoiles, les Américains de Planetary Resources, qui comptent parmi leurs investisseurs le fondateur de Google, Larry Page, mais aussi la firme luxembourgeoise Deep Space Industries et l'astéroïde Mining Corporation, piloté par un jeune homme de 23 ans, Mitch Hunter Scullion. Ce dernier prévoit de lancer son premier satellite d'observation à l'horizon 2020 afin d'identifier les astéroïdes riches en métaux précieux, platine, cuivre, or et zinc, et rêve ainsi de devenir le premier trillionnaire de l'histoire grâce à ce fructueux business.
Le problème, c'est que tous les scientifiques ne partagent pas l'optimisme de ces entrepreneurs.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ainsi, l'astrophysicien français Francis Rocard compare les chances de succès d'une telle entreprise à celle de gagner au loto. Il explique qu'il est très difficile de connaître à une telle distance la composition de ces corps célestes. Si certains rares astéroïdes regorgent effectivement de métaux précieux, la plupart sont composés intégralement de roches et n'offrent aucun potentiel commercial. Au-delà de ces considérations économiques, il faut aussi prendre en compte le risque non négligeable lié à l'exploitation de ces météores. Ainsi, l'une des techniques envisagées aujourd'hui pour exploiter ces corps célestes est celle dite de l'aérofreinage, soit une série de chocs venant dévier leur cours pour les fixer dans l'orbite de la Terre. Or, il est très difficile de calibrer cette opération lorsqu'on ne connaît pas précisément la composition des cibles. Autant dire qu'un petit coup trop fort et cet astéroïde pourrait allègrement traverser notre atmosphère et venir percuter notre bonne vieille planète. Il faut dire que lorsque l'homme doit trouver une manière ingénieuse de s'auto-saboter au nom de la croissance et du progrès, il n'est jamais à court d'idées.